Je suis avec Jean-Noël Orangot. Nous parlons de L'Opium du Ciel aux éditions Grasset, son deuxième livre dans cette rentrée littéraire de janvier 2017. Jean-Noël, dans ce livre L'Opium du Ciel, le narrateur est une intelligence artificielle sous la forme concrète d'un drone volant.
Oui, absolument. En fait, l'idée première, c'était d'écrire sur un drone. Et puis, très vite, j'en suis venu à changer de point de vue et à faire que le drone s'exprime, ce qui supposait une entité intelligente, en fait. Le premier chapitre s'appelle l'après-midi d'un drone. Et c'était, en fait, l'idée, c'était d'écrire une nouvelle autour de cette figure du drone. Qui a une double nature en fait, à la fois le drone tel qu'on le connaît, qui est un objet volant, qui aujourd'hui d'ailleurs est décliné à la fois sous forme civile et sous forme militaire, donc il y a une double nature là aussi du drone lui-même, du drone volant, mais le drone c'est aussi en musique le son continu, c'est-à-dire ces musiques notamment de celle de Tony Conrad, de Lamont Young, musique des années 60, 70. C'est la musique indienne, la musique traditionnelle indienne, avec cet instrument qui s'appelle la tambura. L'idée, c'est de produire un son, un accord continu qui ne s'arrête jamais, qui est aussi une exploration du timbre de l'instrument. Et voilà, et c'était la raison pour laquelle il y a ce titre, L'après-midi d'un drone, qui est évidemment une référence à Debussy, à l'après-midi d'un faune, mais qui était donc une double figure romanesque, à la fois le drone, l'objet volant, qui me semblait être un objet proche de... très romanesque, dans le sens très néo-romanesque, très proche du nouveau roman, parce que c'est un objet qui observe le drone, c'est une entité d'observation qui observe, qui décrit, et donc c'était un peu l'exploration de cette image d'un objet volant qui ne cesse de voler, qui est donc en continu, qui donc renvoie au son continu, et qui, en volant, observe la Terre. Parce que le drone a cette spécificité, c'est encore une double nature chez lui, d'être un objet volant, céleste, mais dévolu à l'observation terrestre. Donc il est mi-céleste, mi-terrestre. Et de fait, à partir de là, s'est imposé le nom de ce drone, qui serait Jérusalem, et qui serait donc impliqué aussi une reprise de par ce nom, de l'exploration du mythe, du mythe et de la réalité, de cette double nature là aussi. Ce livre étant une suite indéfinie de dédoublements, en fait, de la Jérusalem céleste, de la Jérusalem terrestre. Et donc voilà, donc ce drone est mi-terrestre, mi-céleste, mi-sonore, mi-volant.
Ce drone est aussi double dans son origine, puisqu'il a une double origine, il a une nature civile. En fait, c'est une imbrication de deux drones. C'est une construction entre un drone civil, qu'il était, première mémoire, deuxième mémoire, un drone militaire. On peut commencer par... En approfondissant la partie civile du drone, c'est là où on va comprendre la construction un peu de toute cette fiction. Donc, première partie du drone, c'est un jouet offert à Noël à S. On n'en sait pas plus, c'est une Parisienne, une jeune fille parisienne. Et c'était un drone de série à l'ontologie douteuse.
Oui, c'est ça. Alors, au moment où commence le livre, il est déjà conscient, il est déjà parlant, mais il va raconter son histoire. Et effectivement, c'est un bricolage. On connaît la figure du bricolage intellectuel de Claude Lévi-Strauss. Là, c'est un bricolage technologique. C'est-à-dire qu'il est issu de deux drones anciens, ses composantes actuelles, au moment où débute le roman, sont issues de deux drones anciens. Et effectivement, le premier, dans l'ordre des chapitres, est celui civil, de fabrication chinoise, qui est offert à Noël à une jeune adolescente française à Paris, près de Paris, et qui est donc un de ces quadrirotors que l'on voit, un drone récréatif. Alors, qui a cette ontologie douteuse, c'est parce que, évidemment, l'idée, c'est de montrer l'ambiguïté que peuvent avoir ces objets de plus en plus intelligents, entre guillemets, en tout cas qui sont entre l'animal de compagnie, entre on peut évidemment amplifier la prospective, la méditation autour de ces objets qui peuvent à la fois donc effectivement être comme l'animal domestique, mais aussi comme une sorte de d'esclave domestique aussi, un peu tout. Et donc voilà, donc il arrive dans cette famille, chez cette jeune adolescente française, et qui ne lit pas beaucoup, mais lit un auteur américain qui s'appelle Lovecraft. Hein, je pense que beaucoup de tes auditeurs connaissent Lovecraft, on ne va pas le présenter, et va l'appeler Lovecraft. Donc ce drone civil qu'on peut trouver dans le commerce, hein, les quadrirotors qu'on trouve un peu partout maintenant, hein, s'appelle, elle décide de l'appeler Lovecraft.
Et alors, je te cite, je lis un petit paragraphe. Il y parlait d'un livre terrifiant, sans vraiment détailler son contenu, le Necronomicon, et de son auteur, Abdul Asrid, prononcé Abdul Asrid, l'arabe fou, dément, disait-il, dévoré vivant par un monstre invisible en 738 dans une rue de Damas. Fiction ou prédiction, je n'ai jamais bien su, mais la suite de nos pérégrinations à S et moi nous fit voir sa création basculer dans la vérité.
Oui, alors en fait, ce livre est un conte. Et dans ce conte-là, il y a toutes sortes de micro-histoires. Et l'histoire de S, c'est une jeune Française qui va peu à peu être fascinée. Dans le cas, encore une fois, c'est un conte, mais qui renvoie aussi à une certaine réalité, va être fascinée par la grande idéologie révolutionnaire contemporaine, planétaire, qui a une ambition planétaire, qui est une des deux grandes idéologies à ambition planétaire, mais qui touche peut-être beaucoup plus de gens, et qui est cette variante de l'islam, qui est, qu'on peut appeler l'intégrisme, enfin peu importe, voilà, mais qui est, où se conjuguent à la fois des données traditionnelles de l'islam, des données du XXe siècle ou du XIXe qui autour de la révolution, et voilà, c'est de ça dont est composé aujourd'hui l'islam, ce qu'on appelle l'islam radical. C'est un, là aussi, c'est un bricolage en fait entre plein de choses. Elle, en tout cas, elle est fascinée par ça. Et elle va petit à petit se retrouver donc à partir pour la Syrie. Comme le drone s'appelle Lovecraft, évidemment, c'est pas pour rien aussi que j'ai décidé de mettre ça en place, ce dispositif-là, parce que ce qui me frappait, moi, dans les vidéos de l'État islamique, dans les, c'était une sorte de cinéma gore qui nous était montré. C'est-à-dire, il y avait une sorte de Necronomicon aussi, de figure de l'horreur absolue, mais en même temps avec une mise en scène, avec une espèce de vision très contemporaine de l'horreur susceptible de toucher un certain nombre de gens. C'est-à-dire qu'il y a un effet de réalité et de déréalisation par ailleurs. Il y a une sorte de double nature dans ces exécutions terrifiantes, dans ces scènes absolument atroces qui nous sont montrées. On est dans des sortes de snuff movies et qui nourrissent à la fois l'appétit médiatique et qui nourrissent la légende noire du califat et qui nourrissent tout ça. Donc pour moi, ça ressortait pour le coup plutôt d'une histoire. C'est une sorte de nouveau chapitre d'un genre horrifique plutôt qu'autre chose. En tout cas, il me semblait intéressant d'explorer cette voie-là pour parler du califat. Et ce qui était assez frappant, en fait, c'est que cet arabe dément mis en scène par Lovecraft, qui s'appelle Abdul Al-Azrid, Al-Azrid parce qu'il a tout lu, hein, l'arabe dément qui serait dévoré vivant à Damas par un monstre, eh bien, on pouvait tout à fait trouver par symétrie une correspondance avec... avec Al-Baghdadi, avec... Je m'en étais servi une fois pour dire qu'Al-Azrid, c'était Ben Laden et que en fait, c'était quasiment... Alors, à l'époque, on n'était pas encore dans les théories complotistes parce que moi, je me place du côté de la fiction. Mais je trouvais intéressant de dire que c'était quasiment un scénario horrifique de Lovecraft qui se déroulait maintenant dans la réalité et que ce Ben Laden était plus un personnage du cinéma d'horreur ou surtout de la littérature horrifique, par exemple, on aurait très bien pu l'imaginer comme ça, sorti d'un imaginaire américain, et plutôt qu'autre chose, en fait.
Et tu vas jusqu'à faire la contraction Necronomicon Daesh. Tu vas appeler ça Necronomicon Daesh.
Oui, encore une fois, puisque c'est une fiction, donc ça s'appuie à la fois sur une réalité, mais c'est une mise en fiction, et je pense que lire le réel à travers les lectures, ou plus exactement se servir d'une certaine littérature pour relire le réel, enfin le réel, en tout cas ce qui nous est donné comme tel, c'est-à-dire plutôt les informations qui nous arrivent, ça donne une perspective intéressante. Et effectivement, dans ce livre, Daesh, c'est le Daesh Necronomicon. C'est pas simplement Daesh, c'est pas simplement ISIS, c'est pas simplement le califat, c'est Daesh, le Daesh Necronomicon.
Donc première origine du drone. Deuxième origine, c'est un drone militaire américain qui s'entraîne d'abord sur une base américaine et après qui est envoyé sur le conflit syrien.
Voilà, alors l'autre composante de Jérusalem, c'est ce drone qui est un Predator, hein, qui est une variante du Predator américain. Qui est donc fabriqué aux USA et qui porte un numéro de série hein, qui s'appelle CSNR-108. Alors pour le coup, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus siglé. C'est un numéro de série et qui est piloté à distance, là aussi par une femme. Parce qu'en fait, la plupart des personnages de ce livre sont des personnages féminins. C'est un peu une suite de portraits de femmes. Hein, dans toute leur n'importe quel âge, n'importe quelle condition. Donc là, lui, il appelle Eureka. Encore une fois, il n'est pas conscient, ce drone-là. Hein. C'est Jérusalem, a posteriori, qui, dans cette mémoire étrange qu'il a, puisqu'il n'était pas conscient à l'époque, mais quand il le devient, il devient de fait conscient de ce qui s'est passé avant, puisqu'il conserve les données anciennes. Et ça, c'était intéressant pour moi aussi d'explorer cette mémoire paradoxale, c'est-à-dire cette mémoire qui précède la conscience. Mais voilà, il est piloté par cette Eureka, qui n'est pas petite pour le coup, qui est un très très grande, qui est une militaire. Et c'était aussi intéressant de montrer ce contraste là aussi, ce dédoublement que peuvent ressentir les pilotes de drones qui sont dans des cockpits dans le désert au Nevada, qui ont des horaires quasiment des horaires de bureau, rentrent chez eux, voilà, une maison. Alors comme c'est des endroits un peu isolés, bah c'est voilà, on est un peu dans des paysages assez parfois merveilleux, assez fantastiques, j'en ai vu. Et en fait, par ailleurs, ils sont enfermés dans des cockpits et ils tuent des gens. Ils observent des gens essentiellement, mais aussi ils tuent des gens à des milliers de kilomètres de là où ils sont. Et c'est cette double nature aussi. Qui donne une dimension fantastique, quasi fictionnelle à la réalité de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils sont placés dans des schémas psychologiques qui mettent en perspective la notion de morale. C'est pas simplement que ça remet en doute la morale, mais en tout cas ça la met à l'épreuve, parce que quand on discute avec un ou deux pilotes avec quelques pilotes de drones, on insiste beaucoup sur le traumatisme que ça peut créer, mais on voit parfois que ce traumatisme, entre ce décalage entre ce qu'ils font et ce qu'ils vivent, avec notamment la culpabilité de ne pas être sur le terrain avec leurs camarades, hein, c'est essentiellement ça qui ressort, mais il y a aussi à un moment donné une certaine habitude, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de confort terrifiant à être là. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait, c'est-à-dire beauté des paysages d'un côté, horreur des destructions de l'autre. Et ce climat fantastique, en fait, est fictionnel et terrifiant.
On va après parler de la partie conte et la manière dont c'est construit fictionnellement. Je voudrais qu'on avance dans cette histoire. Le drone est donc envoyé au Moyen-Orient, en lieu de conflit. S'ensuit quelques pérégrinations, notamment celle de S, la propriétaire du drone civil qui va faire le djihad, en fait, part pour faire le djihad avec son drone. Elle va, le drone de combat va tomber par terre, elle le reçoit et elle va, vu qu'elle est bricoleuse, fabriquer un seul drone avec le drone civil et le drone militaire. Pour l'instant, il n'a pas encore de vie. Le drone va réussir à s'enfuir, enfin, et dans le conte, et il va être récupéré par un peu dans un lieu semi-désertique où vit une communauté. Et il va être récupéré par deux personnes, deux savants que tu réhabilites. Et c'est là où c'est absolument vertigineux. Et ces deux savants, Marija Gimbutas et Raphaël Paté, vont lui donner la vie, en fait. Ils vont créer un programme pour qu'il devienne intelligence artificielle. Et c'est à partir de là où le drone devient conscient.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre est un mélange à la fois, c'est un conte qui mêle l'actualité, l'archéologie et ce qu'on pourrait appeler la science-fiction. Bon, là, on était vraiment plutôt dans l'actualité, hein, c'est-à-dire ces guerres contemporaines. Aussi, je voudrais dire, c'est aussi une occasion d'explorer un peu cet autre aspect de ces guerres, c'est-à-dire de les lire comme eux nous disent qu'elles sont, c'est-à-dire c'est des guerres religieuses. Alors nous, je sais qu'en Occident, on n'aime pas ce terme, on dit mais non, ce ne sont pas des guerres de religion. Mais si, c'est aussi une guerre de religion. Eux mènent une guerre religieuse. Il faut au moins avoir ce respect et écouter ce qu'ils disent. Ils utilisent un vocabulaire emprunté aux chroniques médiévales, ils ont une grande connaissance de leur histoire, et pour eux, c'est un nouveau chapitre, c'est une guerre religieuse. Bon. Et donc, évidemment, s'il s'appelle Jérusalem, c'est aussi une sorte de réflexion, plutôt de reprise en mineur, mais de ces grands poèmes épiques jusqu'à la Renaissance, comme la Jérusalem délivrée, etc. Bref. Donc là, on quitte ça. Il est délivré par des enfants, en fait. À un moment, il y a une révolte des autochtones dans le califat contre les combattants étrangers. Et ce drone bricolé à partir de CSNR 108 et de Lovecraft est mis à feu et il s'en va. Et jusqu'à l'épuisement de ses réserves de fuel, il tombe ensuite dans une zone entre Negev et Sinaï. Hein. Le Negev, c'est la partie israélienne, le Sinaï. C'est une zone désertique, mais qui est une zone connue aussi pour avoir été un endroit où beaucoup de communautés d'ermites, beaucoup de communautés religieuses dans l'Antiquité étaient, se retiraient, vivaient, etc. Et là, il y a ce que j'appelle le campement. Et là, on passe, j'ai envie de dire, dans la dimension du conte réellement. Évidemment, c'est une sorte de bardo, c'est une sorte d'état intermédiaire entre la vie et la mort. Parce qu'on se rend compte que tous les personnages qui apparaissent dans cette partie-là ont réellement existé, mais leur date d'apparition correspond à leur date de mort dans notre réalité. Et il y a ces deux grands savants qu'on connaît mal en France, Marija Gimbutas et Raphaël Pataï. Marija Gimbutas, c'est une grande archéologue et anthropologue d'origine lituanienne. Qui ensuite a immigré aux USA. Elle est née, j'ai plus toutes les dates, hein, mais elle est née donc dans les années 20. Et elle a ensuite migré aux USA après un passage par l'Autriche. Et elle s'est faite connaître par des études sur le monde indo-européen. Sur le monde indo-européen. Donc c'est-à-dire les Indo-Européens, c'est cette hypothèse. Alors c'est pas qu'une hypothèse, mais enfin disons que c'est devenu une idéologie après l'indo-européanisme, mais c'était l'idée qu'il y avait une tribu du Caucase, de l'Asie centrale en tout cas, qui très très militaire, très forte, et qui se serait répandue à la fois à l'est et à l'ouest, tout en Europe et en Inde, et qui aurait créé qui seraient les Aryas en Inde, les Aryens, avec tout ce que ça entraîne pour le coup en Europe sur l'idée de peuple supérieur. Bref, voilà. Elle se fait connaître par ça. Elle est très respectée, mais au fur et à mesure de ses fouilles, elle découvre ces fouilles archéologiques, une masse d'artefacts, des statuettes notamment, qui beaucoup représentent des corps de femmes, ou beaucoup ont une symbolique qui lui semble apparentée à un monde féminin. Et elle en déduit l'existence au paléolithique, c'est-à-dire de 25 000 jusqu'à 8 000 à peu près, voire même de 30 000 à 8 000, moins 30 000 jusqu'à moins 8 000, et un peu plus, et moins 6 000, 7 000 parfois, d'une grande civilisation de la déesse. C'est-à-dire qu'à l'origine, Dieu était une femme, en gros, hein, pour reprendre aussi le titre célèbre de Merlin Stone, qui était une auteure des années 60-70. En tout cas, elle, ses travaux, donne cette hypothèse-là, l'hypothèse d'une civilisation de la grande déesse. À partir de là, elle a été extrêmement rejetée par la communauté scientifique, alors qu'elle était très reconnue. Hein. C'est une universitaire et elle est restée toute sa vie. Donc, ce n'est pas du tout une historienne farfelue. Mais on voit que les reproches qui lui sont faits sont souvent d'ailleurs très misogynes et assez idiots. Bref, ça, c'est Marija Gimbutas. L'autre personnage, c'est Raphaël Pataille, qui est très intéressant. Raphaël Pataille est un Hongrois, né dans une famille rabbinique, intellectuelle et poète. Son père était poète, sa mère aussi était poétesse. Et qui, lui, donc va faire des études rabbiniques, va faire une sorte d'alia à l'époque en Palestine sous mandat britannique, qui n'est donc c'est pas encore Israël. Donc c'est avant avant la création de l'État d'Israël, et qui va donc est un archéologue, un anthropologue, un linguiste aussi, et qui va synthétiser les recherches archéologiques dans un ouvrage qui s'appelle The Hebrew Goddess, et qui dit ce que les archéologues aujourd'hui admettent tous, beaucoup, la plupart, en tout cas les préhistoriens, les historiens même, puisqu'on est dans un cadre historique, c'est qu'autour de moins 600, avec le roi Josias et après avec la déportation à Babylone, en moins 500, eh bien, les juifs antiques, les juifs de l'Antiquité, avaient un panthéon avec le dieu El, qui était le symbole de la divinité absolue, et puis sa manifestation qui est multiple. C'était une spiritualité, une religion traditionnelle, le judaïsme, comme les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de polythéisme. Le polythéisme est une invention des monothéistes. Et c'est aujourd'hui un peu le problème, c'est de qualifier de polythéistes des Indiens, par exemple, et les Hindous, ou les gens de l'Antiquité. Ils n'étaient pas polythéistes. Simplement, il y a ce qui n'a pas de nom et de nombre, ce qui est donc la divinité, et puis il y a sa manifestation qui est aussi multiple que la création. Donc il y a des femmes, et bien il y a des déesses, il y a des hommes, il y a des dieux. Et Raphaël Pataille dit une chose très belle dans The Hebrew Goddess. En préambule, il dit ce qui nous reste de ça, évidemment, c'est les textes bibliques. Mais on nous dit que Dieu est impossible à représenter, que Dieu. Mais Dieu comme fait quelque chose, il parle. C'est la représentation, c'est l'acte de représentation absolue. Il parle. C'est un Dieu parlant. Et quand on entend Dieu parler, on entend un homme. Et donc il dit c'est cette révolution théologique qui a été une décadence pour lui, quelque part, c'est-à-dire que ce qui n'a pas de nom et de nombre, ce qui échappe effectivement à la représentation, correspond à une seule de ces manifestations, qui est ce dieu masculin, paternaliste, patriarcal, possessif, jaloux, le dieu jaloux. Et donc c'est l'invention, quelque part, plutôt l'une des grandes réalisations du patriarcat. Et quelque part, à mon sens, c'est aussi, et ça c'est important dans le livre parce que c'est dit, il y a des réflexions, des méditations là-dessus. C'est pas un roman d'idées, c'est pas un roman à thèse, surtout pas, mais c'est le récit là, c'est ce récit là, c'est le récit de ce qui est peut-être l'origine du nihilisme. C'est quoi? C'est quand on commence à nier les autres croyances, à les appeler d'idoles, à les appeler idolâtrie, à dire ce sont des idoles. C'est une injure extraordinaire, c'est une négation déjà. Après, on commence, ensuite, on nie ceux qui, dans sa main de notre famille religieuse, ne croient pas de la même façon que nous. Donc les chrétiens vont nier les juifs, qui vont nier les chrétiens, les musulmans vont nier les chrétiens et les juifs, et les deux autres vont faire la même chose, font la même chose, c'est une suite ininterrompue de négations. Et l'autre, la phase finale de la négation, bah, c'est de nier l'existence de Dieu lui-même, après tout, et de nier la création elle-même. Et donc rien n'est important, la vie n'est pas très importante, c'est une marchandise, etc. Et donc c'est sans fin. L'Inde, qui est le dernier endroit avec une partie de l'Asie du Sud-Est et de la Chine, etc., enfin plutôt de l'Asie du Sud-Est, mais qui est totalement assujetti à l'Inde à ce niveau-là, parce que l'Inde est vraiment la mère patrie, comme le judaïsme est notre mère patrie pour les chrétiens et les musulmans, puisque c'est de l'expérience juive qu'est née l'expérience chrétienne et l'expérience musulmane. Et ça n'a pas de sens tout ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas polythéistes, ils ne se considèrent pas comme polythéistes, ce sont des manifestations d'une même entité, d'une même expérience, d'un même mystère. Et ça c'est l'Inde, et ça c'est l'autre partie importante de ce livre, et avec cette notion d'indo-sémitisme à un moment donné qui surgit, qui est comme il y a eu l'indo-européanisme, l'indo-sémitisme c'est quoi? C'est se revendiquer, c'est un bricolage identitaire, mais c'est aussi une notion géopolitique, mais on y reviendra tout à l'heure si tu veux bien, mais qui justement emprunte à ces deux grandes traditions spirituelles de l'humanité.
Là tu viens de dévoiler l'arrière-fond puissant De Opium du ciel, parce que c'est là où on n'est pas que dans des histoires de drones, on n'est pas que dans l'actualité terroriste, on n'est pas que dans Necronomicon Daesh. Il y a, avec ces personnages-là, avec Marija Gimbutas et Raphaël Pataille, là, on entre dans un arrière-fond puissant où on comprend, à travers leurs paroles, à travers leurs travaux, que cette histoire de Dieu-homme, de Dieu masculin, de monothéisme, de Dieu le Père, fait que l'homme masculin entre dans une autre relation avec la femme, forcément.
Oui, c'est-à-dire, alors, c'est vrai que ces travaux-là sont finalement très mal connus. Il y a un seul livre de Marie-Jacques Boutas qui est traduit en français, qui est Le langage de la déesse aux éditions des femmes, superbe ouvrage, mais elle en a fait d'autres, hein. La civilisation de la déesse notamment, et d'autres. Raphaël Patail n'est connu que par sa collaboration avec le poète Robert Graves sur les mythes hébreux, mais The Hebrew Goddess n'est pas connu. Et plein d'autres livres, notamment son autobiographie qui est sublime. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ensuite il part aux États-Unis en 47, il devient citoyen américain et il enseigne dans les universités américaines. Donc, évidemment, quand la moitié de l'humanité est éradiquée ou minimisée dans le monde symbolique et divin, et là il ne s'agit pas d'y croire ou de ne pas y croire. Le problème n'est pas de croire ou de ne pas croire en Dieu. Le problème est d'admettre que ça existe, qu'est-ce qui existe, c'est-à-dire la volonté d'une grande partie de l'humanité et sur la totalité de son histoire, d'imaginer un cadre transcendant, etc. Donc le problème n'est pas de croire ou de ne pas croire, mais d'au moins admettre que ça existe dans le schéma mental humain. Voilà, c'est une expérience qu'on ne peut pas nier comme ça. Mais quand on nie donc cette moitié de l'humanité, il faut bien comprendre que socialement, ça aboutit évidemment à une fragilisation du monde des femmes. Et là, il ne s'agit pas d'être féministe et de c'est juste une espèce de logique. Ce qui est très fort en Inde, par exemple, c'est que l'Inde est une pensée cyclique. Et pour eux, alors on ne va pas entrer dans la théorie des cycles en Inde qui est très complexe, mais disons que les quatre âges primordiaux qui se reproduisent, ces quatre âges se reproduisent un certain nombre de fois, mais en tout cas ces quatre âges, il y a l'âge d'or, il y a l'âge d'argent, il y a l'âge de bronze et il y a l'âge de fer. Et l'âge de fer est l'âge de la dissolution complète. Cet âge de fer aurait débuté pour le cycle actuel de notre humanité, il y a 5000 ans à peu près, un peu plus de 5000 ans, et doit durer encore plus de 400 et quelques milliers d'années. C'est la dissolution complète de tout avant la nouvelle âge d'or qui arrive avec une nouvelle humanité, etc. Et puis ça se reproduit jusqu'à encore... Il y a des cycles de cycles, enfin voilà, c'est pour ça que je ne vais pas entrer dans cette... mais c'est assez magnifique, et ce qui est assez magnifique, c'est de dire que finalement, comment expliquer ce passage, cette destruction de la moitié de l'humanité, c'est un acte premier qui prélude à la destruction de l'humanité entière, en fait, avant même, et ensuite à la destruction de toute chose dans l'univers. Cette déchéance, alors moi je me place d'un point de vue de roman, en tant que romancier, mais il me semblait intéressant d'en faire le récit, c'est-à-dire d'articuler un peu tous ces éléments épars, et de dire que finalement ça fait partie du cycle, à un moment donné, cette attaque sur ce qu'il y a de plus fort, parce qu'il faut quand même comprendre que, évidemment c'est une question d'équilibre, mais dans ces conceptions anciennes, la femme a un savoir, la femme est sacerdotale, il y a quelque chose de sacerdotal dans la femme, et jusque dans sa physiologie. Pourquoi ? Parce que, nous disent-ils, la femme, du fait de sa capacité à enfanter, qu'elle enfante ou non, mais du moins a-t-elle cette possibilité d'enfanter, de porter en elle la vie, et de la mettre en forme et de la donner, tout d'abord, mais même d'être réglée, d'avoir des menstrues, c'est-à-dire tous les mois d'avoir ses cycles, en fait, c'est un être cyclique beaucoup plus que nous, et donc elle est beaucoup plus réceptive au secret, au mystère de la création, au mystère finalement de notre vie, cette interrogation sur notre existence, sur sa finalité, sur ses débuts, sur tout ça. Et elle porte en elle intuitivement par son corps et parce qu'elle a cette chose-là. Et une des manifestations de cette dégradation de son statut, c'est par exemple le fait que quand une femme a ses règles dans les religions monothéistes, juives, musulmanes, chrétiennes différemment, mais dans certains cas aussi, elle est intouchable, elle est sale. Elle est sale quand elle a ses pertes, ses menstrues, etc. Alors que, on a des restes de, et ça c'est, on a des restes, les anthropologues l'ont montré, il y a des restes dans des certaines régions du monde où au contraire c'est le moment où il faut la consulter, où il faut la connaître. La consulter parce que c'est le moment où elle est en liaison avec l'univers en fait. C'est le moment où elle comprend un certain nombre de choses intuitivement. Alors que nous ne comprenons absolument pas ça. Et donc c'est le moment où on peut les consulter, où elles accèdent à, quasiment à un rôle de prêtresse. Enfin voilà, c'était leur conception. Hein, je ne dis pas que voilà, je dis juste que ça me semble plus respectueux d'une certaine logique. Et c'est, y a rien de sentimental. C'est finalement assez logique de se dire que le jour, la nuit, si, le constat du cycle, il est permanent. Tout est pareil et différent. Et ben c'est pareil chez ces femmes, où tous les mois c'est pareil et c'est différent, etc. Ou du moins pendant une partie de leur vie. Et c'est ce qui était très beau, c'est de se penser qu'il y avait des savoirs à coller à ça. Et les fameuses douleurs, les fameuses qu'elles connaissent, ces changements, cette humeur, etc. Disait-on, il y avait des techniques pour justement apprivoiser ça et transformer ça en savoir. C'était le moment justement, comme dans un état de transmission, elles apprenaient à comprendre ces signaux purement physiologiques. Et c'est cette... moi, en tant que romancier, j'y réagis esthétiquement, c'est-à-dire il y a une sorte d'esthétique de beauté dans cette... moi, je suis frappé par la beauté de la chose. C'est ce que je voulais raconter dans ces récits, notamment dans ces parties consacrées à Marie Jagimboutas et Raphaël Pataille, avant qu'on rebascule dans quelque chose d'autre, qui n'a à la fois à voir et rien à voir, mais qui est, là on bascule dans quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le mouvement Planète avec Jacques Bergier, et voilà.
Pour rester sur cette partie sur l'Inde et sur ces deux personnes que tu réhabilites, parce que c'est vraiment l'arrière-fond vraiment puissant de ton roman, Jean-Noël, je vais te lire un peu. Une histoire, disait mon père, donc c'est toujours le drone qui parle, hein. Une histoire, disait mon père, où la moitié de l'humanité se voit éradiquée du monde symbolique et divin. Et ma mère, donc sa mère c'est donc Marie Jagimboutas, et ma mère précisait que l'histoire entière pouvait être lue comme la disparition progressive de la polarité féminine dans le rapport à Dieu. Sa réduction à des rôles subalternes aboutissant nécessairement à l'infériorité de sa condition sur le plan social. Donc ça c'est ce qu'on vient d'évoquer et c'est là où c'est très très fort. Tu ajoutes, de sorte que lutter sur ce plan-là, pour l'amélioration de ses droits des femmes, en oubliant l'autre plan, considéré comme archaïque et superstitieux, est voué à l'échec, et qu'il faudrait au contraire combler ce manque et retrouver une nouvelle mythologie où cette polarité femelle serait de nouveau présente. Mais quelle leçon de féminisme, là, c'est stupéfiant.
Écoute, je ne sais pas quoi dire parce que je ne me sens pas du tout féministe, et surtout, je ne sais pas mon rôle ou mon... encore une fois, c'est un récit que je transmets. Un des plaisirs pour moi du roman, c'est de pouvoir transmettre le récit des autres, pas simplement une invention. Alors certes, là il y a j'assemble un certain nombre d'éléments, mais oui, il me semble que c'est un cul-de-sac, cette négation, ce nihilisme vis-à-vis de l'expérience spirituelle et religieuse dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on est religieusement anti-religieux. Il y a une sorte de religion de l'athéisme, comme il y a une religion du Christ, comme il y a une religion musulmane, comme il y a une sorte d'intégrisme, de religiosité assez grossière, assez bête, alors que c'est une donnée permanente. Et surtout, il faut reconnaître une chose, c'est la beauté de l'expérience spirituelle et de l'expérience religieuse. Quand une civilisation coïncide avec celle-ci, ça aboutit à des choses fabuleuses, ça aboutit à... Aujourd'hui, l'essentiel du tourisme est consacré à visiter les lieux de la caste sacerdotale, c'est-à-dire les églises, les mosquées, les temples. Vous allez en Inde, vous visitez les temples. Vous allez encore visiter les temples. En Italie, les églises. Vous allez dans le sud de l'Espagne, vous allez à Samarcande. Vous allez en Perse, vous visitez des mosquées. Vous visitez, vous allez en Égypte, vous visitez des temples égyptiens. Bon, on va visiter aussi les architectures de la caste royale, les palais qui sont devenus nos musées. Nos républiques sont établies dans les palais de la royauté. Donc, donc c'est un peu idiot de nier ça. Bon, ça, c'est une chose. Mais il est évident que si on ne prend pas en compte cette donnée-là, c'est-à-dire la donnée, l'expérience religieuse, l'expérience spirituelle, et le statut qui est donné aux femmes dans cette, dans cette, dans cette expérience-là. Évidemment que lutter pour ses droits sociaux, c'est une base et c'est important. Mais de fait, à mon sens, c'est voué à l'échec parce que tant qu'il n'y aura pas un travail fait sur le texte, tant qu'il n'y aura pas une revitalisation de l'expérience religieuse en tant que, voilà, du côté féminin, qu'est-ce que c'est prier une déesse ? Quand vous allez en Inde et que vous allez dans des temples consacrés à la déesse, c'est pas la même chose que quand vous allez dans des temples consacrés au dieu, et vous le sentez, la foule est différente, c'est autre chose. Il y a des hommes et des femmes, il y a des prêtres pour des déesses, c'est pas réservé aux femmes, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que cette polarité féminine, ce féminin, est devenu une sorte de grande inconnue finalement. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait plus ce que c'est. Et pour les femmes elles-mêmes, elles sont face à quelque chose d'inconnu, à une sorte de mystère. Et ne pas en tenir compte, à la française, on a un côté cartésien. Donc même les féministes ont un côté très... même si c'est pour Descartes, c'est un peu caricatural d'employer ce terme de cartésien, mais quand même, on est dans une espèce de vision très réductrice, très limitée, où on ne prend pas en compte ce plan symbolique et divin. Et c'est ça qui est très important. Et c'est à ça aussi qu'on devrait, je pense, se référer à un moment donné, parce que c'est la base de tout. Au ciel, dans la conception céleste, parce que toutes les sociétés sont plus ou moins basées quand même sur une idée de transcendance. Finalement, même le progrès est l'idée de progrès social est une forme de transcendance, de volonté d'améliorer les choses est une forme laïque de la transcendance. Bon. Évidemment, socialement, il ne se passera pas grand-chose.
Parce que ton livre, les arrière-fonds donc sont donc puissants, et on peut l'imaginer presque comme un livre-monde. Enfin, il y a beaucoup de lieux géographiques, puisque ce drone se déplace. Il a une partie française, une partie américaine. Il se balade dans le Moyen-Orient, lieu de guerre, lieu un peu plus interlope. Et puis, il retourne à un moment donné en France, avec une histoire d'amour. Parce que c'est des contes, c'est ça. C'est une succession de contes qui s'enchaînent de manière très, très logique. Voilà, tu as fait une sorte de conte des mille et une nuits où c'est pas Scheherazade, mais c'est le drone qui compte, en fait. C'est un conteur. Et donc, on a une succession à chaque chapitre, on a une succession d'actions dans un lieu particulier. Ce drone, bien entendu, va aussi longtemps en Inde. On comprend aussi que c'est là où il y a une source pour toi intellectuelle, philosophique, conceptuelle, assez puissante. Et alors, tu opères un grand décentrement. Voilà, quand je lis L'Opium du ciel, pour moi, c'est une arrivée massive d'hétérodoxie maximale de la pensée quotidienne française occidentale. Enfin, c'est-à-dire qu'on est très, très éloigné du roman français ou du roman américain qui est toujours centré sur ces problématiques et on n'en sort pas. Et même pour des romans bien étudiés, il y a des concepts et des arrière-fonds philosophiques. On reste dans une philosophie et des concepts finalement occidentaux avec un assez faible apport de ce que pourrait être la pensée indienne, par exemple, ou d'Asie de l'Est, ou chinoise. Il y a des expériences comme ça, mais bon, on le sent assez peu, finalement, ça reste dans des romans occidentaux. Or, toi, il y a une arrivée massive, de choses nouvelles, enfin, d'hétérodoxie. On est vraiment très, très surpris, parce que quand le drone revient en France... Il y a un regard sur la société française, sur Paris, sur la société occidentale qui est assez redoutable. Et tu te fais presque moraliste, quelque part aussi.
Alors écoute, ça me fait évidemment plaisir ce que tu dis. Alors c'est vrai que, alors plutôt qu'occidental, je dirais moderne. Et je t'explique pourquoi, parce que je ne suis pas du tout anti-occidental, au sens où pour moi l'Occident s'arrête à un moment donné. On a identifié l'Occident aux révolutions qui se sont passées. Moi c'est vrai que... par des expériences personnelles, des rencontres avec un certain nombre de personnes, notamment des soufis et surtout des shivaïtes et des kabbalistes, mais bon, surtout des shivaïtes et certains bouddhistes en Thaïlande. Voilà, j'ai connu un certain nombre de gens qui m'ont enseigné quelque part un certain nombre de choses, et puis c'est des discussions et puis des lectures. Et c'est vrai que dans ce roman et puis même dans d'autres, finalement, j'ai un mode de pensée qui est un peu qui part de là, si tu veux, qui part de l'expérience spirituelle et pas de l'expérience forcément matérielle. C'est un peu ce que les gens connaissaient jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. On parle beaucoup du courant des Lumières, on oublie les autres Lumières qui étaient le mouvement illuministe, Saint-Martin, Martinez de Pasquali, le philosophe inconnu. Voilà, donc moi, c'est de là que je pars. Et c'est des données traditionnelles. Voilà, c'est des données traditionnelles qui ont été... reprise par René Guénon, par exemple, qui a été pour moi une lecture formatrice dans ma jeunesse. René Guénon, qui est un métaphysicien français de la fin du 19e et du 20e siècle. Dans ces données traditionnelles, la lumière vient d'Orient. La lumière vient de l'Est. Il faut savoir que pour la Chine, par exemple, il y a un grand roman chinois qui s'appelle Pérégrination vers l'Ouest. C'est l'inverse. Tout ça se situe l'Inde un petit peu comme un des centres initiatiques de l'humanité, là où il y a un savoir mystérieux, pas mystérieux, mais enfin, ou du moins l'expérience de la vie et l'interrogation sur cette vie, c'est manifesté par un certain nombre de disciplines, de choses qui sont intéressantes à étudier. Donc ce roman, pour moi, c'était l'occasion de manifester ça à travers des personnages. Certains personnages qui sont sérieusement impliqués là-dedans, d'autres personnages que j'aime beaucoup aussi parce qu'ils ont cette distance. Et ça, pour le coup, cette distance, c'est l'Occident qui la possède. On a une distance, on a une ironie vis-à-vis de certaines choses qui n'est pas non plus négligeable. C'est-à-dire que même face à quelque chose de vrai, on arrive toujours à faire ce pas de côté pour ne pas y correspondre totalement. Tu vois ? C'est la grande ironie française, mais pas le ricanement. Hein, parce que aujourd'hui, c'est devenu une sorte de ricanement autour du jeu de mots, etc. C'est un peu idiot en littérature, mais je parle de la grande ironie du 17e, voire du 18e. C'est ce qui faisait dire à un des plus grands, un grand cardinal français, qui donc était catholique, et qui disait, par exemple, si j'aime le paradis pour son climat, je préfère l'enfer pour sa fréquentation. Vous voyez, tu vois, voilà. Et pourtant, il était cardinal. Donc, c'est un peu cette famille-là, moi, dont je me sens proche. C'est le cardinal de Berny, en fait. Donc, oui, c'est toutes ces lectures, toute cette philosophie cyclique. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est quelque chose auquel je crois. Si je dois croire quelque chose, c'est plutôt à une vision cyclique du temps et pas à une vision linéaire. Je crois pas vraiment au progrès. Je suis pas sûr qu'actuellement on a fait des progrès dans certains domaines, mais on a énormément régressé dans d'autres. Il y a quelque chose de très ridicule, totalement ridicule dans le transhumanisme, par exemple, l'obsession à vivre une immortalité, ou du moins vivre 500 ans sur Terre. Je trouve ça complètement idiot. Alors il y a des progrès médicaux très forts et il faut les saluer, mais enfin on ne fait jamais que repousser l'espérance de vie. Et on oublie complètement ce phénomène qui est le plus important, qui est la mort. Et donc, qu'est-ce que mourir et qu'est-ce que le rite, quels sont les rites autour de ça? On a complètement oublié cette interrogation-là. En Inde, non, c'est omniprésent. En Asie du Sud-Est, c'est omniprésent. Il y a une imbrication du vivant et de la vie, de la mort, comme nous auparavant en Occident, avant la modernité, ce qu'on a appelé la modernité. Et moi, à ce niveau-là, je me situe plutôt comme un pré-moderne, oui. Pas forcément comme un anti-moderne, je ne suis pas agressif à l'égard de la modernité, mais je me sens totalement étranger à la modernité. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, très peu, en fait.
C'est peut-être pour cette raison-là que tu as reçu ce livre « Matin des magiciens » dans les années 70, signé de Jacques Bergier et de Louis Powels, et d'après leur enjeu intellectuel autour de la revue Planète. J'aimerais que tu en parles pour terminer cet entretien. Comment tu as découvert ça? Parce que je ne sais pas si tu as lu cet article dans la revue Le Crieur. C'est le nouveau numéro numéro 5. Il y a un article absolument fabuleux justement sur ce livre-là, les Matins des magiciens.
Alors oui, alors ça c'est très important pour moi, mais justement parce que eux n'ont pas pris les choses de façon comme des croyants. Hein. Ils avaient une vision un peu, ils étaient un peu lucifériens dans leur façon d'entreprendre leurs travaux. Le Matin des magiciens, Jacques Bergier, l'un des co-auteurs, a toujours dit que c'était un livre de seconde zone. Mais ce qui est assez génial finalement dans ce livre, alors Le Matin des magiciens, pour retracer un peu, c'est l'idée, c'est de retracer des histoires hétérodoxe par rapport à l'histoire officielle et de mettre en avant des données qui sont soi-disant minorées ou rejetées par la science officielle. Voilà. Donc se mélange allègrement toutes sortes de choses, hein. C'est une sorte de patchwork de pseudo-science, de vraie science, il y a l'alchimie, mais il y a en même temps une vision un peu dégénérée de l'alchimie. C'est là où ils mettent en route toute cette problématique de l'ésotérisme nazi, qui va connaître une fortune énorme, et il parle aussi, voilà, de peut-être d'origine extraterrestre. Enfin bref, on l'aura compris, le Matin des Magiciens est une figure matricielle de tout ce que l'on peut lire aujourd'hui ou de tout ce qu'on peut relire aujourd'hui autour à la fois la problématique des ovnis, la problématique des archéologies des civilisations oubliées, les théories du complot. Véritablement, ils font naître des théories du complot. Etc. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'évidemment, ils étaient libres par rapport à ça. Hein. Ils n'y adhéraient pas. Ils ont simplement compris que ça participait pour eux d'un courant de l'imaginaire populaire face à l'amas du savoir, à l'amas d'informations du savoir. Et donc, il y a une sorte de recombinaison d'un certain nombre d'événements, d'éléments qui sont producteurs de sens, même faux. Mais on est dans la fiction et ils le revendiquaient. Et d'ailleurs, ils parlaient de réalisme. Fantastique, j'ai peur de me tromper là, j'ai peur de dire une bêtise. Enfin, bref, en tout cas, il se plaçait dans un courant littéraire et paralittéraire à la fois. Littéraire parce que parascientifique, voilà. Et c'est extrêmement fort, c'est génial. Bon, l'aventure de Planète. Qui est devenue une revue, hein, puisque Le Matin des Magiciens, il y a eu un tel succès qu'ils ont décidé d'en faire une collection et une revue qui s'appelait Planète. Et il y a une collection Planète avec des titres comme Histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans, enfin des trucs avec l'hypothèse de guerre atomique dans le passé. Et l'autre fois, j'étais chez quelqu'un, je voyais, je ne sais plus sur quelle chaîne, mais maintenant il y a des émissions entières là-dessus. Il y a tout un courant qui s'est développé depuis, qui existait déjà avant. Hein. Il y a toute une histoire à faire de ça. Hein, de Planète et Jacques Bergier et Louis Powells ne font qu'hériter finalement de tout un mouvement qui date du 19e siècle, qui lui-même hérite d'autre chose. Mais les mouvements occultistes, le Paris de la Belle Époque est un Paris occultiste, un Paris parascientifique, avec une redécouverte, une volonté de redécouvrir l'alchimie, de redécouvrir la magie, de redécouvrir tout ça. C'est les débuts de ça. Il faut savoir que Jacques Bergier vient d'une famille rabbinique où la cabale était assez couramment pratiquée. Louis Powells a beaucoup fréquenté Gurdjieff. Il était très sensible à l'Inde, etc. Donc il y avait une certaine honnêteté dans leur démarche, dans leur interrogation. Après, Le Matin des Magiciens, très clairement, ils l'ont conçu comme une espèce de... C'est un ouvrage luciférien et, dirait René Guénon, contre-initiatique, véritablement. Mais avec cette honnêteté de ouverte de dire oui, c'est ça, mais aussi c'est intéressant parce que ça permet de révéler en fait ce que les masses pensent et veulent. Et au fond, ils n'ont pas tort. Parce qu'il est évident que déjà, quand Fritz Lang fait le Docteur Mabuse, etc., il comprend qu'il y a une... Bon, c'est tiré aussi de la psychologie des masses des années 20, des années 30. Mais cette fascination des foules pour l'irrationnel est évidemment la conséquence de la destruction de tout socle traditionnel, de tout socle religieux, de tout socle spirituel. Quand il n'y a plus de sens de ce côté-là, eh bien évidemment se manifeste le pire. Et le pire, c'est évidemment toutes ces pseudo-sciences, toutes ces espèces de trucs New Age que l'on voit. Et qui sont, moi qui m'intéresse à titre romanesque, à la rigueur, fictionnel, mais qui font quand même des dégâts terribles.
Merci beaucoup, Jean-Noël.
Merci à toi.